C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
Le 1er juillet 1951, à Saint-Pétersbourg, en Floride, Mary Razor, une femme de 67 ans, s'installe dans son fauteuil favori pour fumer une cigarette. Il est un peu plus de 21 heures. Elle a passé une partie de la soirée en compagnie de son fils, Richard, et de sa petite-fille, Mary Carol. Après leur départ, sa voisine et propriétaire, Pansy Carpenter, est venue la saluer. Elle n'est restée qu'un moment, le temps de s'enquérir de son état de santé. Mary a ensuite enfilé sa robe de chambre et ses pantoufles. Le lendemain, un peu après 8 heures, un employé de la Western Union se présente à l'appartement de la sexagénaire. Il sonne, mais n'obtient aucune réponse. En ressortant du complexe d'appartements, il croise Pansy Carpenter. Il lui explique avoir un télégramme pour Mary Razor. La tenancière s'offre de remettre elle-même le courrier à sa locataire. Elle retourne à l'appartement et sonne à son tour. Pas de réponse. Pansy Carpenter s'inquiète. Mary Razor n'est pas du genre à faire des sorties matinales et si telle avait été son intention, elle lui en aurait parlé la veille. En mettant la main sur la poignée de la porte, la tenancière se brûle sur le métal chauffé. Quelque chose ne tourne pas rond. Elle court chercher de l'aide, deux peintres en bâtiment qui travaillent de l'autre côté de la rue. Lorsque les employés forcent leur entrée, ils sont accueillis par un souffle brûlant. Tout l'appartement est envahi par une épaisse fumée noire. Ils conseillent à Pansy de contacter le service des incendies. Les sapeurs de Saint-Pétersbourg mettent moins de 5 minutes pour débarquer au 1200 Cherry Street Northeast. Si un feu a fait rage dans le petit appartement, les flammes se sont éteintes d'elles-mêmes. D'ailleurs, mis à part la suie noire qui couvre les murs, le logis n'a souffert d'aucun dommage important. Ce n'est pas le cas de la locataire. Là où se trouvait le fauteuil favori de la sexagénaire, il ne reste plus qu'un tas de cendres et quelques ressorts tordus. Et au milieu de ces débris, les pompiers distinguent un pied, encore chaussé de sa pantoufle, et un morceau de foie. C'est tout ce qui reste de Mary Razor. Pour les témoins, la scène suggère que la dame s'est soudainement embrasée alors qu'elle était assise dans son fauteuil. Une impossibilité en soi. Cet invraisemblable scénario vaudra à Mary Razor d'être rebaptisée dans la presse locale « The Cinder Lady », la femme en cendres. Le 8 novembre 1964, à Upper Darby, en Pennsylvanie, aux États-Unis, les pompiers répondent à une alerte. Lorsqu'ils arrivent sur place, une maison cossue construite sur les hauteurs de Drexel Hill, une épaisse fumée noire s'échappe d'une fenêtre du deuxième. En quelques secondes, les sapeurs enfoncent la porte et s'attaquent aux flammes. Il ne leur faut que quelques minutes pour venir à bout de l'incendie. Le spectacle qui s'offre à eux les laisse pantois. Sur un fauteuil, placé dans un coin, repose le corps d'une femme. Quoique « corps » ne soit peut-être pas l'expression la mieux choisie. Il s'agit plutôt de deux jambes, du bout des orteils jusqu'aux genoux, qui reposent encore appuyées contre la partie basse de la chaise. Tout le reste du corps est réduit en cendres. Les sapeurs n'ont jamais rien vu de pareil. Au moment de l'incendie, il n'y avait que deux autres personnes dans la maison, deux fillettes d'une dizaine d'années. Interrogée, la cadette, Stéphanie, explique qu'après le départ de ses parents vers 8h40, elle est allée porter des allumettes à sa grand-mère, la victime. À ce moment-là, la femme de 51 ans était toujours en vie. Puis, quelques minutes plus tard, une voisine est venue l'informer qu'il y avait une étrange lueur orangée dans une fenêtre du deuxième. La jeune fille s'est précipitée à l'étage, d'où de la fumée s'échappait déjà sous la porte de la chambre. Elle a appelé, mais sans succès. Elle a ensuite essayé d'ouvrir la porte, mais la poignée était trop brûlante pour être manipulée. C'est à ce moment-là qu'elle a téléphoné au service des incendies. Il était précisément 8h48. Il a fallu à peine 8 minutes aux sapeurs pour maîtriser l'incendie. Comment, en si peu de temps, Helen Ann Conway a-t-elle pu brûler au point de n'être plus qu'un amas de cendres? Brûler, comme si le feu avait pris naissance à l'intérieur de son corps. Le 13 septembre 1967, un vagabond de 63 ans, Robert Francis Bailey, est retrouvé dans une maison désaffectée de Londres, en Angleterre. L'homme, à demi carbonisé, gît étendu dans l'escalier. À l'arrivée des pompiers, des flammes bleues jaillissent encore de son abdomen. Le 24 novembre 1979, la police de Bolingbrook, en Illinois, aux États-Unis, est appelée à se rendre au domicile de Mme Béatrice Hosky. La plaignante est sa bru. La femme raconte que, n'ayant pas de nouvelles de sa belle-mère, elle s'est rendue chez elle et est entrée. Il régnait partout dans la maison une odeur de brûlé. Dans le salon, les murs étaient couverts de suie et, au milieu de la pièce, il n'y avait qu'un fauteuil carbonisé. Nulle part dans la maison, elle n'a trouvé trace de sa belle-mère. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils font vite le tour du propriétaire. C'est alors qu'ils notent que parmi les ressorts du fauteuil carbonisé, il y a aussi des jambes, celles de Mme Hosky. Il n'y a rien d'autre de brûlé. Seul le fauteuil où se trouvait apparemment la vieille dame avant de prendre feu. Uruf est un petit bourg lorrain proche de Toul, en France. Ginette Casmierzac y mène une vie solitaire, discrète et effacée dans le logement de fonction de son fils, l'instituteur du village. Dans la nuit du 12 au 13 mai 1977, des voisins appellent les pompiers. De la fumée s'échappe de l'appartement de Mme Casmierzac. Les sapeurs arrivent prestement et à coups de hache s'introduisent chez la vieille dame. L'incendie est vite maîtrisé. Le spectacle qui s'offre à eux les glaces d'horreur. Le corps de Mme Casmierzac gît carbonisé sur le plancher, contre la porte d'entrée, mais les jambes et le bras droit sont intacts, alors que la tête, le tronc et l'abdomen ne sont plus que des cendres. Il a fallu une température énorme, 2000 degrés centigrades, pour arriver à ce macabre résultat. Fait étrange, seul le plancher, sous le buste de la victime, montre des traces d'incendie. Les murs et le sol sont maculés de suie. Mais rien d'autre n'a brûlé dans l'appartement. Le poêle à mazout et le chauffe-eau sont éteints. Une boîte d'allumettes est intacte sur le rebord de la fenêtre. L'électricité fonctionne correctement. Crime? Suicide? Ces thèses sont écartées à défaut d'éléments matériels pouvant les étayer. Le parquet de Nancy ouvre une enquête et charge le capitaine Laurent d'une expertise. L'expert reprend toutes les hypothèses. Explosion d'une bonbonne aérosol ou d'un gaz, mais l'embrasement du mobilier aurait alors été total. Un crime, mais la porte de l'appartement était fermée de l'intérieur. La foudre, la météo invalidera cette possibilité. L'officier doit admettre qu'il s'agit bien là d'un cas de combustion spontanée. Le 18 janvier 1978, le parquet de Nancy prononce une ordonnance de non-lieu dans cette affaire. Le 2 février 1980, Annie Gertrude Webb est retrouvée morte à son domicile de Newport, en Angleterre. De son corps, il ne reste que les extrémités de ses jambes. Le reste a littéralement été réduit en cendres. Curieusement, les meubles de la cuisine et les effets placés sur la table n'ont à peu près pas souffert des flammes. Le 9 octobre 1980, Gina Winchester et son amie de cœur, Leslie Scott, roulent sur Seaboard Avenue à Jacksonville, en Floride, aux États-Unis. Soudain, Gina s'enflamme comme une torche. Elle hurle « Sors-moi d'ici !» tout en essayant d'éteindre les flammes avec ses mains. Son compagnon tente de lui venir en aide. Dans l'énervement, il fait une embardée et heurte un poteau de téléphone. La jeune femme est conduite à l'hôpital. Le médecin de service note des brûlures au troisième degré sur plus de 20 % de son corps. Gina Winchester se remet rapidement de ses blessures. En examinant la voiture du couple, les pompiers notent qu'elle ne présente que peu de dommages dus aux flammes. Les experts ne trouvent aucune fuite de carburant et aucune cause possible à cet embrasement soudain. Qui plus est, le couple circulait avec les vitres fermées, ce qui exclut que quelqu'un ait pu jeter quelque chose, comme un mégot de cigarette, par la fenêtre ouverte. Le 28 mars 1986, le corps de George Mott est retrouvé dans sa petite maison de Crown Point, dans le comté d'Essex, dans le nord de l'État de New York. Son corps n'est plus qu'un petit tas de cendres au milieu de son lit carbonisé. C'est son fils qui a fait la macabre découverte, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de son paternel depuis 2 jours. À son arrivée, il a trouvé l'intérieur de la maison couverte de suie. Il y avait des traces d'une forte chaleur, mais, à part le lit de George Mott, rien n'avait souffert des flammes. Le médecin légiste, chargé de l'enquête, conclura à un cas de combustion humaine spontanée. Le 22 décembre 2010, à l'aube, les pompiers de Ballybane, en Irlande, sont appelés à une résidence pour personnes âgées de Clearview Park. Depuis plusieurs minutes, l'alarme d'incendie résonne dans l'appartement de Michael Faherty. Des voisins se sont rendus chez lui, mais personne n'a répondu à la porte. Lorsque les sapeurs arrivent, ils investissent le petit appartement. Il n'y a pas de flammes, seulement une épaisse fumée noire. Dans la salle de séjour, ils trouvent l'unique résident, Michael Faherty. L'homme de 76 ans gît sur le dos, la tête à quelques centimètres du foyer. Son corps est carbonisé, mais pas réduit en cendres. Le feu qui a brûlé le septuagénaire ne s'est pas étendu au reste de la maison. Les seuls dommages matériels sont le plancher sous la victime et le plafond juste au-dessus. À l'autopsie, le légiste découvre que Michael Faherty souffrait de diabète de type 2 et d'hypertension. Mais c'est l'asphyxie qui l'a tué. Le coroner, le Dr. Cyron McLaughlin, n'arrive pas à comprendre comment un incendie aurait pu brûler la victime à ce point sans se répandre au reste de la maison. Pour lui, la seule explication est que Michael Faherty a été victime d'une combustion humaine spontanée. Les combustions humaines spontanées, dossier 1951-0701. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Au chapitre du surnaturel, aucun phénomène n'est aussi inquiétant que la combustion humaine spontanée. Le scénario est simple. Par un mécanisme encore inconnu de la science, le corps s'enflammerait comme une torche, réduisant en quelques minutes la victime en un tas de cendres. Cette surprenante crémation est rapportée depuis des siècles et, faute d'explication et d'une reconnaissance officielle par l'establishment médical, elle continue d'alimenter la controverse. Il faut dire aussi que les médias et la littérature confondent souvent combustion humaine spontanée et autocombustion, deux phénomènes totalement différents. La combustion humaine spontanée, désignée souvent par l'acronyme CHS, se définit comme une crémation soudaine, rapide et complète, ou quasi complète, de la victime. Comme si le feu naissait de l'intérieur du corps. L'autocombustion est différente et découle d'une série de circonstances où le corps va se consumer de lui-même. Dans le cas de l'autocombustion, la crémation est lente et le feu déclencheur est externe. Il peut s'agir d'une cigarette, un radiateur ou la flamme d'une cuisinière. Même si les cas d'autocombustion sont a priori moins exotiques que les prétendus décès par CHS, leurs explications et les circonstances dans lesquelles ils se produisent sont loin de faire l'unanimité. Quoi qu'il en soit, dans la grande majorité de ces cas, qu'il s'agisse de combustion humaine spontanée ou d'autocombustion, l'environnement autour des victimes ne présente que peu de dommages dus aux flammes. S'il existe des cas de combustion humaine spontanée, ce qui demeure très incertain, ces drames échappent aux explications rationnelles. Comme le corps est majoritairement composé d'eau et ne contient ni oxygène ni combustible susceptible de s'enflammer de lui-même, ce type d'embrasement est improbable. Pour un néophyte, il est ardu d'imaginer à quel point un corps humain est difficile à brûler. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le problème des tortionnaires nazis n'était pas d'assassiner les millions de déportés des camps d'extermination, mais de se débarrasser de leur corps. De nos jours, pour les crémations, les salons funéraires doivent placer les défunts dans un four à 2000 degrés centigrades pendant 3 heures. Et malgré cela, il reste toujours des os qu'il faut broyer mécaniquement. Pour envisager un phénomène de combustion spontanée capable de réduire un corps en cendres en quelques minutes, il faut introduire dans l'équation une dynamique plus ou moins surnaturelle. Dans les milieux ésotériques, des adeptes ont proposé des dérèglements d'énergie. Plusieurs traditions mystiques soutiennent que le corps serait en effet le foyer de courant qui, mal canalisé, pourrait aboutir, dans des cas extrêmes, à la combustion du corps. Ce sont ces mêmes énergies qui sont associées aux méridiens de l'acupuncture ou aux 7 chakras des enseignements du yoga Kundalini. J'avoue ne pas trop croire à ces histoires d'énergie mystique. Je ne leur accorde que très peu de crédit, les trouvant peu fertiles et bonnes qu'à n'expliquer l'inexplicable que par l'inexpliqué. J'ai peut-être tort de rejeter ce genre d'explication mystico-ésotérique, mais j'en accepte le risque. Dans A Blaze, l'auteur américain Larry Arnold, qui étudie ce phénomène depuis des années, propose lui aussi un dérèglement. Mais celui-là, au niveau atomique. Ce chaos, croit-il, serait provoqué par la présence dans l'organisme d'une particule hypothétique qu'il baptise le pyrotron. L'hypothèse paraît audacieuse, sinon aussi insensée que l'énergie des chakras. Si ces crémations sont l'œuvre de ces pyrotrons, comment expliquer que l'on n'ait jamais retrouvé de corps brûlé uniquement de l'intérieur? L'hypothèse serait envisageable si les pathologistes avaient sous la main un corps dont seuls les organes internes avaient été brûlés. Un corps intact de l'extérieur, mais brûlé à l'intérieur. Après tout, si ces feux naissent vraiment de l'intérieur, nombre de victimes ou présumées victimes devraient se retrouver dans cette catégorie. Mais il n'en est rien. Autre problème avec ces pyrotrons. Il n'existe aucun cas documenté de combustion animale spontanée. Si ces particules réagissent au niveau atomique, il n'y a aucune raison pour que les animaux n'en soient pas pourvus. Tous les êtres vivants sont composés des mêmes éléments atomiques et chimiques, des plantes aux mammifères. C'est plutôt l'agencement des chaînes ADN qui détermine la nature et l'espèce. Dans cet univers de l'infiniment petit, les humains sont très semblables aux autres mammifères et ne diffèrent que de quelques chromosomes de leurs cousins primates. Pourtant, aucun agriculteur n'a jamais rapporté que l'une de ses vaches s'était enflammée spontanément ou qu'un singe avait pris feu dans les rues de New Delhi. Et croyez-moi, ils y sont très nombreux. En revanche, dans la nature, les animaux sont très rarement confrontés à des flammes vives, contrairement aux humains. Or, curieusement, lorsque l'on consulte le dossier des combustions humaines spontanées, on est frappé par l'omniprésence de sources d'allumage sur les lieux, des foyers, des cuisinières ou des bougies. ou par la quantité de fumeurs invétérés parmi les victimes? Et si le détonateur était extérieur?
C'est 23.
Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Au début des années 2000, alors que je préparais un reportage sur la combustion humaine spontanée, je suis tombé sur un article du St. Petersburg Times à propos de la mort de Mary Razor, cette sexagénaire dont les restes carbonisés, un petit tas de cendres et un pied droit, avaient été trouvés en 1951 dans son appartement de St. Petersburg, en Floride. Curieusement, l'appartement de Mme Razor avait à peine souffert de l'incendie. L'article, publié le 5 juillet 1951, rapportait que les restes de la victime avaient été envoyés au laboratoire du FBI à Washington. Évoquant la loi d'accès à l'information, j'ai aussitôt demandé à l'agence fédérale une copie de son rapport d'enquête. Un mois plus tard, j'avais entre les mains le dit document. Il s'agit d'un court rapport de quelques pages détaillant les circonstances de la mort de la sexagénaire, les analyses menées par les enquêteurs et leurs conclusions. Les experts ne parlent pas de combustion humaine spontanée, mais d'autocombustion. Selon eux, le décès de Mary Razor est la cause de tous les soi-disant décès par combustion humaine spontanée enquêtés par le FBI serait imputable à un mécanisme complexe appelé l'effet bougie. Pour les experts du FBI, ce sont les vêtements des victimes qui auraient d'abord pris feu sous l'effet d'une source extérieure, une cigarette dans le cas de Mary Razor. Une fois la victime évanouie, ses vêtements auraient servi de mèche et ses graisses corporelles, liquéfiées par la chaleur, de combustible pour entretenir la flamme, un peu comme une bougie. Les partisans des combustions humaines spontanées rejettent cette explication, affirmant que la chaleur générée par ce genre de feu ne pourrait pas réduire les victimes en cendres. Ils soutiennent également que les flammes se seraient aussi propagées au reste de l'appartement. Ils ont tort et raison. Des tests montrent qu'un feu réduit à l'état de braise peut perdurer un long moment sans se communiquer aux objets à proximité. Par contre, pour atteindre une température suffisante pour réduire en cendres un individu, minimalement 1500 degrés centigrades, ce feu doit couver de longues heures. Dans un endroit bien aéré, la température ambiante risque d'atteindre le niveau critique de l'embrasement généralisé éclair, bien avant d'atteindre ce type de crémation. L'embrasement généralisé éclair est un phénomène thermique qui provoque l'embrasement de tout matériau combustible. Il survient aux alentours de 600 degrés centigrades. En revanche, dans un environnement clos et pauvre en oxygène, comme il a souvent été rapporté dans les cas de combustion humaine spontanée, le danger de l'embrasement généralisé éclair est remplacé par celui de l'explosion de fumée, le backdraft. Lorsque l'air n'entre pas dans un lieu, les flammes, qui ont besoin d'oxygène, s'éteignent rapidement. Dans l'effet bougie, ces braises continueront toutefois d'être alimentées par les graisses liquéfiées de la victime. Pour réduire en cendres le corps, cette combustion devra durer de longues heures, remplissant la pièce de gaz. La température, augmentant, risque fort de faire éclater les fenêtres. Le mélange air-gaz risque alors d'exploser dans un tourbillon de fumée. Pour éviter ce phénomène, la température doit chuter en dessous du point critique de l'explosion, ce qui demande des heures et ce, sans entraîner le bris d'une fenêtre. Et ce n'est pas le seul problème. Dans des cas bien détaillés, les victimes ont été vues vivantes moins d'une heure avant d'être retrouvées en cendres. C'est notamment le cas de Mme Conway. Si les dépositions des témoins sont exactes, et il n'y a pas raison d'en douter, l'effet bougie ne peut plus être évoqué ici comme solution, le temps écoulé étant trop court. C'est sans doute pourquoi aucun documentaire faisant l'apologie de l'effet bougie n'a jamais fait de démonstration in vivo, ni en temps réel, ni dans un environnement réel. De surcroît,
pour déclencher le processus conduisant à l'effet bougie, toutes ces démonstrations ont nécessité que les vêtements des sujets cobayes, généralement des carcasses de porc, soient arrosés d'un accélérant. En d'autres termes, pour que l'effet bougie puisse fonctionner, du moins tel que proposé dans ces démonstrations, il faut avoir affaire à une tranche de bacon enveloppée dans un chiffon, dans un appartement mal aéré, ou à un cadavre en peignoir, dans une chambre à l'épreuve des incendies. Mais avec un cadavre humain dans un appartement conventionnel, ça ne fonctionne pas. C'est lorsque j'ai découvert que les sceptiques nous roulaient dans la farine avec cette explication que j'ai décidé de m'intéresser de plus près à ces combustions humaines spontanées. Ma première étape a été de m'adresser à un spécialiste des incendies, en l'occurrence le lieutenant Richard Ménard, à l'époque inspecteur pour la section recherche des causes d'incendie de la ville de Montréal. L'officier a commencé par m'expliquer les divers scénarios possibles d'incendie. Feu en milieu ouvert ou fermé, avec ou sans accélérant. Il m'a ensuite détaillé l'aspect des victimes. Dans les cas d'incendie conventionnel, ce sont les extrémités qui sont les premières affectées. Les doigts et les orteils carbonisent et les membres, bras et jambes, rétrécissent, tout comme la tête. Bref, tout à fait l'inverse des victimes des soi-disant combustions humaines spontanées. Lorsque je lui ai montré des photographies de prétendues victimes, notamment les clichés du corps d'Hélène Anne Conway, l'officier Ménard m'a avoué que seule une très longue exposition à la chaleur aurait pu produire cet effet. Je me suis aussi rendu au bureau du shérif d'Essex County dans l'État de New York. En 1986, ce sont les préposés aux urgences qui ont dû composer avec l'affaire de George Mott, cet ancien pompier retraité de 58 ans, retrouvé carbonisé au milieu de son lit. Lors de ma visite, le responsable des services d'urgence, David Jackwish, m'a ouvert les archives sur l'affaire George Mott. Il a attiré mon attention sur deux photographies prises sur les lieux. La première montrait une fenêtre située à 1 mètre du lit, et la seconde, un thermomètre, retrouvé dans la pièce voisine. Si la température avait atteint les 2000 degrés nécessaires à la crémation de George Mott, nul doute que la fenêtre aurait éclaté, tout comme le thermomètre. À l'issue de mes rencontres, j'oscillais entre l'hypothèse des pyrotrons de Larry Arnold et l'effet bougie. Si l'idée qu'un corps puisse s'enflammer de lui-même me paraissait tirée par les cheveux, l'effet bougie manquait en revanche d'un élément capable de réduire le temps de crémation du sujet, comme dans le cas de Mme Conway, qui a brûlé en moins de 30 minutes. Cet accélérant naturel, que j'ai appelé l'élément X, était à mon avis la seule alternative à la solution de cette énigme. J'admets que mon idée n'était pas nouvelle. Cette hypothèse d'une prédisposition pathologique a souvent été proposée par les chercheurs. Jusqu'au siècle dernier, l'explication récurrente était les spiritueux. On croyait que l'alcool pouvait s'accumuler dans les tissus corporels et prendre feu, sans raison apparente. Dans son roman feuilleton, Bleak House, paru en 1852, Charles Dickens fait mourir l'un de ses personnages, M. Crook, un alcoolique invétéré, par combustion spontanée. Pour cet épisode, Dickens disait d'ailleurs s'être inspiré de plusieurs cas authentiques de combustion humaine spontanée. Nous savons aujourd'hui que l'alcool n'a rien à voir dans ce dossier. Même dans les cas d'intoxication extrême, proche du coma éthylique, la quantité d'alcool ne dépasse jamais quelques centaines de grammes. Or, pour s'enflammer, les tissus adipeux du corps devraient être saturés à 50% d'alcool. Ce taux est impossible à atteindre. Dans son « Investigating the Unexplained », publié en 1972, Ivan T. Sanderson proposait la vitamine B10 et les phosphagènes. La vitamine B10 est un composé de deux vitamines, H2 et H3. Elle joue un rôle important dans la pigmentation de la peau et des cheveux. Selon Sanderson,
La transformation de ces vitamines à travers l'organisme rendrait certains individus, en particulier les gens sédentaires, plus inflammables. Il ne suffirait alors que d'une source d'allumage extérieure pour qu'ils s'embrasent comme des torches. Le problème avec cette hypothèse, c'est que si les phosphagènes, groupe auquel appartient la vitamine B10, sont en effet des composés proches de la nitroglycérine, bien connue pour ses propriétés explosives, aucune étude ne prouve qu'ils puissent s'accumuler dans l'organisme au point d'en augmenter le taux d'inflammabilité. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les phosphagènes se logent à la même enseigne que l'alcool. J'en étais toujours à ma quête de l'élément X lorsque j'ai appris qu'un biologiste britannique, le Dr. Brian Ford, avait un nouveau candidat, l'acétone. Lorsque les cellules du corps sont affamées, ce qui peut se produire lors d'une maladie, d'un régime alimentaire drastique ou d'exercice physique extrême, elles transformeraient les acides gras en acétylcoenzyme A ou acétyl-CoA, une forme active de l'acide acétique, voisine de l'acétone, un composé chimique inflammable utilisé dans la fabrication des solvants. Dans ce processus, affirme le professeur Ford, les tissus biologiques deviendraient inflammables. La peau elle-même laisserait échapper des vapeurs d'acétone. Il suffirait alors d'un contact avec une flamme vive, voire une simple décharge d'électricité statique, pour déclencher l'autocombustion. La proposition du professeur Ford est intéressante, mais présente les mêmes faiblesses que l'hypothèse de l'alcool ou des phosphagènes d'Ivan Sanderson. Pour que l'acétylcoenzyme A puisse augmenter de manière significative l'indice d'inflammabilité de l'organisme, il faudrait que le corps soit plongé pendant des heures dans un bac d'acétone pour en saturer les tissus. Au quotidien, de telles conditions, quel que soit l'état pathologique du sujet, sont impossibles à atteindre. Je ne crois pas que les victimes de la combustion humaine spontanée aient été consumées par un feu né de l'intérieur. Aucune étude post-mortem ne supporte cette conclusion, pas plus qu'il n'existe de cas documentés de survivants présentant uniquement des brûlures internes. Je sais que les adeptes de cette hypothèse évoquent souvent le cas d'un certain Jack Angel pour justifier leur point. Mais cette hypothèse prête flanc à de sérieuses critiques. En 1974, Jack Angel s'est présenté au Veteran Administration Medical Center de Decatur, en Géorgie, aux États-Unis. L'homme avait l'avant-bras droit carbonisé et présentait de graves brûlures à la poitrine. Ces lésions se seraient développées alors qu'il dormait dans sa roulotte. Dans son rapport médical, le docteur David Richard Fern, qui a dû procéder à l'amputation du bras droit de M. Angel, a écrit que les blessures avaient été provoquées par un feu intense, comme si les flammes venaient de l'intérieur. Il a par ailleurs ajouté que ces brûlures étaient analogues à celles provoquées par une décharge électrique. Quoi qu'il en soit, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. L'année suivante, Jack Angel a poursuivi pour la somme de 3 millions de dollars le fabricant de sa roulotte devant la Cour supérieure de Fulton County, en Géorgie. Ses avocats, Ross Bell et Paul Cobb, ont soutenu devant le juge que les blessures de leur client ne découlaient pas d'un épisode de combustion humaine spontanée, mais du bris d'une valve sur un réservoir d'eau chaude. Jack Angel a éventuellement été débouté. Ses avocats ont-ils inventé cette histoire de valve défectueuse pour obtenir une compensation du fabricant de la caravane, comme plusieurs semblent le croire? À moins que ce ne soit l'histoire de la combustion spontanée qui ait été inventée, comme le soutiennent les sceptiques. Cette incertitude nous rappelle à la prudence. Cela dit, même en acceptant l'histoire de la combustion nocturne de Jack Angel, il faut se rappeler que ces blessures n'étaient pas uniquement internes. Dans le cas d'une électrocution, le courant peut se frayer un chemin entre son point d'entrée et son point de sortie, appelé marque électrique de Jellyneck, brûlant au passage les chairs, les muscles, les nerfs et les organes. Je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé à Jack and Jill, mais l'hypothèse doit être considérée. C'est aussi l'hypothèse proposée par le Dr. Fern. Si les blessures de Jack and Jill n'ont pas été provoquées par une décharge électrique, la victime n'en présentait pas moins, curieusement, de nombreux et possibles points d'entrée et de sortie. Pour les autres victimes, survivantes ou décédées, les brûlures sont toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Dans ces cas, on a clairement l'impression que ce sont leurs vêtements qui ont pris feu en premier. Il serait peut-être plus juste de parler de combustion vestimentaire spontanée. Plusieurs de ces victimes étaient des fumeurs ou se trouvaient à proximité d'une source de flammes vives, une cuisinière ou un foyer, au moment de leur embrasement. Pour les autres, la source d'allumage a pu être une vulgaire étincelle d'électricité statique. On ne réalise pas qu'un simple brossage de cheveux peut libérer des décharges de 50 000 volts. Dans un environnement hautement inflammable, une telle étincelle peut aisément mettre le feu aux poudres. Je pense que les victimes de la combustion humaine spontanée sont plutôt frappées par un phénomène d'autocombustion accélérée. Je crois également que ces victimes doivent présenter des états pathologiques particuliers pour pouvoir brûler de la sorte, bien au-delà du simple fait de porter ou non des sous-vêtements en lycra. En revanche, j'ignore toujours quels sont ces états pathologiques. L'élément X m'échappe toujours. Bien entendu, je ne rejette pas entièrement l'hypothèse de l'effet bougie. Mais ce scénario est très discutable pour de nombreux cas, comme celui d'Hélène Conway, est complètement éclipsé dans les affaires où il y a eu des témoins oculaires ou des survivants. Cette hypothèse est très souvent promue par des gens qui se réclament de la science, mais qui en secret ne souhaitent que river le clou aux amateurs de mystère. Ces pourfendeurs du paranormal sont beaucoup plus intéressés de nourrir leur sentiment d'avoir raison que d'expliquer objectivement les faits. Au chapitre des combustions humaines spontanées, il faut bien l'avouer, la solution nous échappe encore. Comme le disait René Magritte, c'est le mystère qui éclaire la connaissance.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
C'est 23.